VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 8 décembre 2016. Au sommaire ce soir...
Élections au Ghana, les premiers résultats sont très serrés entre le président John Dramani Mahama et l'opposant Nana Akufo-Addo.
Nouvel ajournement du procès de Aya Sanogo au Mali, l'audience reprendra en février 2017.
Le Gabon promet de sévir contre ses casques bleus accusés d'abus sexuels en Centrafrique en cas de culpabilité.
À Bamenda, fief anglophone, de nouveaux affrontements ont opposé la police à des manifestants.
Et ici aux États-Unis, Donald Trump nomme un troisième général dans son équipe gouvernementale.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Ghana, les premiers bulletins de vote dépouillés laissent prévoir un résultat très serré entre le président sortant, John Dramani Mahama, et son rival, Nana Akufo-Addo. Le point avec Nanit Talani.
11 des 275 circonscriptions ont été jusqu'à présent comptabilisées selon la commission électorale. 7 candidats sont en lice, mais la bataille se joue entre les rivaux historiques. Le président sortant John Dramani Mahama, qui brigue un second mandat, a une très légère avance sur son rival Nana Akufo-Addo, qui se présente pour la troisième fois. Le site de la commission électorale ne fonctionnant pas, c'est sur Twitter que l'instance publie ses premiers résultats. Elle affirme qu'une double vérification doit avoir lieu, vu les possibles bourrages d'urnes dans certains bureaux de vote. Tout le monde attend avec anxiété ces résultats qui devraient tomber au plus tôt ce soir et au plus tard samedi. Si aucun des deux principaux candidats ne remporte plus de 50% des voix, un second tour aura lieu courant décembre.
Lancement ce jeudi à Kinshasa de nouvelles négociations sous l'égide de l'Église catholique. Objectif, aider le pouvoir et l'opposition à sortir de l'impasse politique à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Monsieur Kabila et Étienne Tshisekedi n'étaient pas dans la salle, mais leurs délégués ont pris part à la cérémonie d'ouverture de ce nouveau forum. On écoute Monseigneur Marcel Outembi, président de la CENCO, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce travail portera essentiellement sur l'examen des points de divergence afin d'obtenir des solutions capables par un large consensus. L'heure est grave. La population congolaise tout entière nous regarde. Raison pour laquelle nous serons tous appelés au cours de ces assises à nous dépasser et à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir à notre cher et beau pays une paix durable, une occasion de consolider la démocratie chèrement acquise et lui éviter un enlisement aux conséquences néfastes.
Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale de la RDC.
Au Gabon, le ministère de la Défense a annoncé que des sanctions seront prises contre les casques bleus gabonais soupçonnés d'abus sexuels en Centrafrique. Des enquêtes sont en cours pour déterminer la véracité ou non de ces accusations. Le point avec Dili Dico.
Dans un communiqué, le ministère gabonais de la Défense assure au peuple centrafricain et à ses partenaires internationaux que des enquêtes adéquates sont menées pour faire la lumière sur les soupçons d'abus sexuels qu'auraient commis des casques bleus gabonais en Centrafrique. Étienne Massar Kabinda, ministre de la Défense et secrétaire général de la Présidence, a promis que les personnes impliquées seront sanctionnées de façon appropriée. En attendant la fin de l'investigation, il appelle au respect de la présomption d'innocence. Après 4 mois d'enquête, l'ONU a identifié 41 casques bleus, 16 Gabonais et 25 Burundais de la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique. Ils sont accusés d'avoir perpétré des abus sexuels dans la préfecture de Kémo en 2014 et 2015.
La contestation de la minorité anglophone continue au Cameroun. Des affrontements ont éclaté aujourd'hui entre la police et des jeunes manifestants à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Les manifestants ont voulu empêcher la tenue d'un meeting du parti au pouvoir et la police a tiré sur la foule. Nous y reviendrons dans notre partie magazine.
Et puis, contestation également au Kenya, où les médecins et les infirmières, en grève depuis lundi dans les établissements publics, ont menacé aujourd'hui d'étendre leur mouvement aux établissements privés après l'échec des négociations avec le gouvernement.
L'homme d'affaires rwandais Vincent Murekezi, condamné à la prison à vie pour sa participation au génocide de 1994, a été arrêté aujourd'hui au Malawi, où il réside depuis 2003. Kigali réclame depuis 2009 l'arrestation et l'extradition de M. Murekezi, selon la police.
Conflit en Libye, le GNA, le gouvernement d'union nationale, a annoncé que plus de 260 cadavres de djihadistes ont été récupérés en deux jours dans les rues et les bâtiments de Sirte, après la reprise de ce bastion du groupe État islamique par les forces pro-gouvernementales. Les combattants de Daesh ont probablement été tués au cours des ultimes combats menés dans le dernier quartier où ils étaient retranchés depuis des mois face à l'offensive des forces loyales au GNA.
En Égypte, un des fils de l'ex-président Mohamed Morsi a été arrêté. Avocat Oussama Morsi est mis en cause dans le procès sur la manifestation des frères musulmans au Caire en août 2013, manifestation qui avait fait des centaines de morts.
L'actrice et réalisatrice ivoirienne Marie-Louise Asseux est décédée hier soir dans une clinique d'Abidjan. Elle avait connu la célébrité dans la sitcom « Faut pas fâcher », puis avec son rôle de Marlou dans la série culte « Ma famille ». En 2007, son film « Un mari pour deux sœurs » avait été un succès dans toute l'Afrique francophone.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les forces du régime, appuyées par les combattants étrangers, ont lancé ce qui pourrait être l'assaut final sur les derniers quartiers rebelles d'Alep. D'après le président Bachar al-Assad, la reprise de cette ville sera un tournant dans la guerre. Jacques Aristide.
Fort de ses succès militaires et des soutiens cruciaux russes et iraniens, le régime syrien a refusé les appels au cessez-le-feu et veut coûte que coûte s'emparer de la totalité de la deuxième ville du pays. Une reprise d'Alep sera la plus importante victoire pour Bachar al-Assad depuis le début de la guerre en 2011. Les civils assiégés depuis plus de 4 mois sont soumis à un déluge de feu. Les casques blancs, les secouristes qui opèrent dans les derniers secteurs rebelles à Alep-Est, ont appelé les organisations internationales à les protéger et leur permettre un passage sécurisé face à l'avancée rapide des forces syriennes. Les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et russe Sergei Lavrov n'ont fait aucun progrès après deux brèves rencontres informelles en Allemagne.
Le journaliste britannique John Cantley, enlevé il y a 4 ans en Syrie, a été vu dans une vidéo du groupe État islamique en train de faire un reportage dans la ville irakienne de Mossoul. Les images n'étaient pas datées, mais les ponts détruits visibles dans la vidéo laissent penser qu'elles ont été tournées ces dernières semaines. Reporters sans frontières a condamné le I pour son utilisation lâche d'un otage forcé de faire leur propagande.
Un tribunal grec a rejeté une demande d'extradition de la Turquie pour 2 soldats turcs accusés par Ankara d'implication dans le coup d'État échoué de juillet. Les 2 soldats ont été les derniers à faire l'objet d'une décision de justice en Grèce parmi un groupe de 8 membres d'équipage d'un hélicoptère ayant fui vers la Grèce le lendemain de la tentative du coup d'État. La décision intervient juste 2 jours après que d'autres juges du même tribunal ont approuvé l'extradition de 3 officiers. La demande d'extradition des 3 premiers soldats a également été rejetée. Tous les soldats ont clamé leur innocence.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a mis en garde ses homologues européens sur la menace que représente l'augmentation de l'autoritarisme en Europe et dans le monde. Dans un discours prononcé ce jeudi devant le Conseil ministériel de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, à Hambourg, M. Kerry a déclaré que la tendance à la hausse de la pensée autoritaire s'accompagnait d'un recul des droits de l'homme, de restrictions aux médias indépendants et de multiplication des actes d'intolérance et des crimes haineux. Chaque infraction contre les principes fondamentaux de la liberté est en fait un bloc de construction hideux sur la route de la tyrannie, a-t-il dit.
Le procès de Dylan Roof, qui avait tué de sang-froid 9 paroissiens noirs dans une église américaine le 17 juin 2015, la pire tuerie raciste de l'histoire récente des États-Unis, ne sera pas annulée en raison du témoignage d'une rescapée qu'il a qualifiée de « diable ayant sa place en enfer ». La défense soutient qu'en prononçant ces paroles, le témoin a donné son avis sur la sentence qui devrait être réservée à l'accusé de 22 ans, ce qui est interdit. Le juge en a décidé autrement. Toutefois, et la suite du procès était prévue aujourd'hui avec les témoignages d'enquêteurs et de membres des forces de l'ordre.
La terre a tremblé en Californie, mais le séisme de magnitude 6,5 semble ne pas avoir fait de dégâts importants. La secousse a été enregistrée ce jeudi au large des côtes nord, à 451 km au nord-ouest de Sacramento, la capitale de l'État, selon un communiqué de l'Institut américain de géologie. L'Institut croit qu'il y a une faible probabilité de dégâts et de victimes. La population dans la région vivant et travaillant en général dans des structures parasismiques.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le FMI vient d'approuver un décaissement de 19 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 25,8 millions de dollars pour le Mali. Cet appui financier porte ainsi à environ 81,3 millions de dollars le total des décaissements effectués pour ce pays au titre du programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit. Pour le FMI, l'économie du Mali continue de croître à un rythme soutenu avec une croissance prévue du PIB de 5,4% pour 2016 et de 5,3% pour 2017. Au Djibouti, le gouvernement table sur une croissance de 7% en 2017 contre un taux de 6,5% prévu en 2016, grâce notamment à des investissements directs étrangers dans les infrastructures portuaires, les télécommunications et les aéroports. L'économie du Djibouti est axée sur les services, notamment les transports et les services connexes, en raison de sa position géostratégique pour l'acheminement de biens et de pétrole. En Zambie, le gouvernement prévoit de refinancer ses eurobonds émis entre 2012 et 2015 et dont l'encours actuel est de 2,8 milliards de dollars. L'objectif est de les remplacer par des obligations à l'échéance plus longue et des taux légèrement inférieurs afin de minimiser le poids de la dette. À cause de la baisse des revenus en dollars et du kwacha, la monnaie locale, la Zambie ne peut plus rembourser sa dette qui a atteint désormais 19% de son PIB. Le refinancement devrait déboucher sur une réduction du poids de la dette à seulement 15% du PIB.
Et maintenant, la page sport, aujourd'hui avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
La Coupe du monde des clubs a démarré au Japon.
Le club japonais des Kashima Antlers a remporté 2-1 face à l'équipe néo-zélandaise d'Auckland le match d'ouverture à Yokohama. À suivre dimanche les matchs du deuxième tour et l'entrée en lice du champion d'Afrique, les Mamelodi Sundowns, contre ces mêmes japonais de Kashima. Le club américain de Mexico City affrontera dans l'autre match les sud-coréens de Jeonbuk Hyundai FC.
La FIFA radie à vie deux ex-dirigeants africains.
Jonathan Musavengana, ancien responsable de la fédération zimbabwéenne, et Bana Tchanile, l'ex-sélectionneur du Togo, ont été radiés à vie du monde du football pour des faits de corruption. C'est ce qu'annonce la FIFA ce jeudi. L'ancien président de la fédération sud-africaine, Kirsten Nematandani, a pour sa part été suspendu 5 ans. Les trois hommes, on le rappelle, ont été reconnus coupables d'avoir violé les règles éthiques à l'occasion de matchs internationaux amicaux disputés en Afrique du Sud en 2010. On rappelle aussi qu'entre octobre 2015 et mars 2016, quatre anciens dirigeants de la Fédération sud-africaine de football avaient déjà été sanctionnés d'années de suspension dans le cadre de cette même affaire.
L'Europa League en Europe ce soir, la sixième et dernière journée.
Faux pas interdit pour Manchester United à Lugansk. Feyenoord doit impérativement l'emporter devant Fenerbahçe. Anderlecht, premier du groupe C, accueille Saint-Etienne, deuxième. Et puis l'Inter Milan, déjà éliminé, affrontera le Sparta Prague.
L'Angola à l'honneur en handball.
Oui, l'Angola a remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016 de handball. Les Angolaises ont battu en finale la Tunisie sur le score de 36-17. Les Tunisiennes étaient tenantes du titre. L'Angola soulève donc son 12e trophée continental au pavillon des sports de Kilamba. On rappelle que le Cameroun a terminé à la 3e marche du podium après la disqualification du Sénégal.
Et enfin, les dernières nouvelles de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Clippers de Los Angeles ont été surclassés à domicile par Golden State 115-98. Houston a humilié les Lakers 134-95, soit leur plus large victoire face à la deuxième franchise la plus titrée de l'histoire. Et puis Cleveland n'a pas non plus fait de détails. Le champion en titre a surclassé les Knicks de New York 126-94 au Madison Square Garden pour signer leur 15e victoire en 20 matchs.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux d'être en votre compagnie, Claire Morin-Gibourg et chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour, première escale, Bamako.
Le procès d'Amadou Aya Sanogo et 17 co-accusés a été renvoyé au mois de février 2017. Cela pour permettre au laboratoire Mérieux de faire un rapport d'expertise médicale des 21 victimes. Cette demande est une exception des avocats de la Défense qui avaient formulé une dizaine d'exceptions. La seule retenue a été l'établissement d'un rapport d'expertise. Le président de la Cour a donné un délai de 45 jours. C'est pour cela qu'il a renvoyé le procès à la première session de la Cour d'assises de l'année 2017. Le point à Sikasso avec Kassim Traoré.
À la reprise ce jeudi 8 décembre 2016, la Cour s'est fait attendre. Une heure de retard. Le président de la Cour, dès son rentrée dans la salle, a statué sur les exceptions de la défense. Elle a demandé de reprendre l'expertise des 21 corps et renvoyer le procès à la prochaine session de la Cour d'assises. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de la défense.
C'est l'ambassade des États-Unis qui a été désignée comme expert. Une ambassade ne peut pas servir d'expert. Ne pouvant pas faire le travail, elle est allée sous-traiter le dossier au FBI. Le FBI ne pouvant pas faire le travail, lui aussi est allé sous-traiter à des experts portugais. Alors que la loi exige qu'il prête serment devant le juge d'instruction. Dans ces conditions, les experts n'ayant pas prêté serment, les experts n'étant pas connus, la Cour a décidé que leur travail n'est pas bon.
La Cour va loin. Elle a décidé que c'est le laboratoire Mérieux de Bamako qui fera l'expertise des corps dans un délai de 45 jours. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes.
Les parties civiles sont un peu rassurées qu'effectivement, elles pourront, à la suite du rapport qui va être déposé, elles pourront aller tout droit vers un procès. Et les rapports d'expertise peuvent nous permettre de savoir comment ils ont été assassinés, avec quelles balles, est-ce que c'est les balles de l'armée malienne. Les rapports peuvent déterminer tout ça. Et ça, ça participe à la manifestation de la vérité.
Si certains avocats et accusés sont satisfaits du renvoi du procès, tel n'est pas le cas de Maître Alassane Sangaré, avocat de l'ancien ministre de la Défense, Yamoussa Camara.
Yamoussa n'est pas un justiciable de cette cour d'assises. Et même le juge d'instruction qui a connu de son dossier n'était pas le juge d'instruction habilité à le faire. Parce qu'au moment où il faisait les choses qui lui sont reprochées, au moment où il a été interpellé, inculpé, mis sous mandat de dépôt, ces choses-là avaient été reprochées à Yamoussa dans l'exercice de ses fonctions. Donc la loi est très claire en ce domaine.
Ce renvoi est aussi une manière de mettre en cause la mauvaise organisation de cette assise, même si le parquet est satisfait de l'arrêt de la Cour. Mamadou Lamine Koulibaly, procureur général près la Cour d'appel de Bamako.
Des impressions de satisfaction parce que nous respectons les décisions de justice, nous respectons la Cour d'assises. Sur ce plan, on exécute les décisions de justice. Je suis satisfait. Satisfait parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant.
Les avocats de la défense vont introduire une demande de liberté provisoire pour tous les clients au niveau de la chambre d'accusation, alors que cette demande a été rejetée par la Cour. Sikasso, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington Forum ce jeudi, on revient sur le résultat inattendu des élections en Gambie. Après 22 ans de pouvoir, le président Yahya Jammeh, tant redouté de ses compatriotes, a perdu la présidentielle face à Adama Barrow et immédiatement a reconnu sa défaite. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de ce pays enclavé dans le Sénégal. Quel avenir pour le président sortant? Qui est le nouvel homme fort de Banjul? La Gambie peut-elle servir d'exemple d'alternance pour d'autres pays africains? Laissez nouveaux commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Cap sur le Burkina Faso. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire a laissé entendre que le 20 décembre va marquer le début des procès des dossiers liés au coup d'État manqué. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wonogo.
L'attente des Burkinabés, qui s'est mise en désespoir quant à un début de jugement des dossiers liés aux push manquées, sera enfin comblée, selon Alioune Zaré, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire. On l'écoute.
L'ensemble des dossiers avance donc de façon très satisfaisante. Ainsi, avec la disponibilité donc des juges de la chambre de jugement, nous avons obtenu deux pour qu'ils commencent les premières audiences dès le mardi 20 décembre, avec le dossier Ouédraogo Madi et plus de 40 autres.
Ce premier dossier nommé Ouédraogo Mahdi n'est certainement pas le plus attendu à côté de celui du général Gilbert Diendéré. Le commissaire du gouvernement s'explique.
Beaucoup de difficultés sont venues donc miner l'avancement de ce dossier. En fin août 2016, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui avait des inculpés dans son cabinet, s'était déclaré incompétent. On nous a transmis le dossier et nous avons demandé donc au juge d'instruction donc d'ordonner une jonction de procédure. Le 13 septembre 2016, toujours poursuivant l'instruction, le juge s'est rendu compte qu'un parlementaire était impliqué et il a donc saisi le parquet. Et nous avons introduit une requête depuis le 13 septembre pour demander la levée de l'immunité donc de ce parlementaire afin qu'il puisse être entendu par le juge d'instruction. Je pense que cela vient d'être fait. Le 4 octobre, l'instruction avait commis un expert afin d'éclairer sa religion sur les écoutes. Le rapport de cet expert est rentré finalement le lundi 5 décembre.
Selon le commissaire du gouvernement, dans l'affaire Thomas Sankara, l'expert espagnol commis pour le test de l'ADN a demandé et obtenu une prolongation du délai pour conclure ses travaux et produire son rapport. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au moins une personne a été tuée à Bamanda, dans le nord-ouest du Cameroun, après des affrontements entre la police et des manifestants qui avaient dispersé un meeting du parti au pouvoir. Bamanda est depuis quelques semaines en proie à des manifestations avec une partie de la population qui réclame plus de considération de la partie anglophone du Cameroun. Abdourahmane Dia a joint un témoin qui a assisté aux manifestations. On écoute Annie Collins.
Oui, la tension baisse petit à petit dans les rues de la capitale, mais la capitale régionale de cette région du Nord-Ouest. Mais il n'y a pas de voiture, aucune voiture ne circule, sauf les voitures de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Au moment où vous m'appelez, il y a l'ambulance de l'hôpital qui vient de passer là avec à son bord le corps d'un jeune homme de l'université de Bamenda qui a été tué aujourd'hui lors des échauffourées entre les forces de sécurité et les manifestants.
Qu'est-ce qui est à l'origine de ces affrontements?
C'est des manifestants qui s'opposent à un meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, qui devait avoir un meeting de l'unité nationale. Un meeting dit de l'unité nationale ici à Bamenda, après celui de Boya, il y a deux jours. Et ceux qui s'opposent ici s'opposent à l'un de leurs fils, le ministre chargé des missions à la présidente de la République, qui soutient qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Pourtant, c'est tout le monde qui sait qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Et même le premier ministre était il y a une semaine ici même pour rencontrer les syndicalistes, des avocats, des enseignants, pour essayer de désamorcer une grève des enseignants qui est en sa troisième semaine et des avocats qui est depuis deux mois déjà. Et le premier ministre est en train de désamorcer la situation alors que le ministre était à Yaoundé, disant qu'il n'y a pas de problème anglophone. C'est cela qui a provoqué donc les jeunes gens qui sont descendus dans la rue aujourd'hui à Bamenda.
Vous parlez d'une victime que vous avez vue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent d'autres morts?
Il y aurait eu un autre mort, un autre corps, mais j'ai vu un seul corps à la place des fêtes de Commercial Avenue où devait se tenir ce meeting, mais le feu a été mis de gauche à droite et c'est les forces de sécurité qui ont sécurisé la place des fêtes. Et alors, dans les eaux souffrées, ce jeune garçon a trouvé la mort.
Annie Collins, un témoin des affrontements à Bamenda au Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump continue de constituer son gouvernement avec, entre autres, la nomination du général à la retraite John Kelly au poste de secrétaire à la sécurité intérieure. C'est le troisième militaire de carrière auquel il fait appel, alors que plusieurs autres figurent sur sa liste pour d'autres postes. Certaines voix s'élèvent pour s'inquiéter de ses choix. Pour une analyse, Timothée Donagmaï a joint à Alexandria, en Virginie, Brett Brenn, président de Global Situation Room, une firme de consultance internationale.
Il y a une bonne tradition ici aux États-Unis de mettre les militaires sous la supervision des civils, parce que nous en avons ici aux États-Unis une histoire de démocratie qui est surtout dirigée par le peuple. Et quand les militaires arrivent à un certain point où ils se sentent indépendants de cette volonté, il y en a surtout dans les opérations des problèmes et des manques de conscience de ce qui pourrait être des conséquences des actions pour le peuple ici aux États-Unis et ailleurs.
Les défenseurs du président élu Donald Trump font remarquer que les officiers supérieurs à la retraite auxquels il fait appel sont des personnes ayant des diplômes universitaires et qui ont conscience des implications militaires, mais aussi politiques et légales de leurs décisions.
Il n'y a pas de doute que les généraux qu'il a choisis sont des militaires très bien préparés en termes d'éducation. Et je crois que le problème existe plutôt dans le sens de ne pas avoir la perspective civile dans leur expérience. Et ça pourrait créer des problèmes. Bien sûr, on sait qu'ils en ont une expérience très riche en termes de ce qu'ils ont fait au niveau militaire, aussi au niveau d'éducation, mais il y en a des différences entre quelqu'un qui a étudié des théories de l'histoire pour des opérations militaires et quelqu'un qui a travaillé dans le secteur privé, dans le secteur du gouvernement en dehors des questions militaires.
Les Républicains, le parti du président élu Donald Trump, contrôlent les deux chambres du Congrès. Est-ce que cela garantit une confirmation rapide de ces anciens généraux et anciens amiraux sélectionnés pour différents postes gouvernementaux?
Presque. Il y en a toujours des possibilités que quelqu'un aura un problème pour quelque chose qu'ils ont dit ou quelque chose qu'on découvre pendant le processus de confirmation, mais en général, on peut dire que c'est presque une certitude que ces généraux vont prendre leur position.
Brett Brenn, président de la Global Situation Room, nous parlait d'Alexandria dans l'État de Virginie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
De cette édition. Merci de votre fidélité à la mise en onde. Merci à Georges Léonard Sagnot, à Rachad pour son travail à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient bien sûr la conversation sur Facebook. Partagez vos photos, vos vidéos, posez des questions pour nos programmes interactifs. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM,
92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.